Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, la fin d'un cold case vieux de 36 ans, Jean Castex qui pourrait bien rester Premier ministre au-delà de 7 semaines et puis une confrontation peut-être capitale dans l'affaire Jubilard.
Nos deux sujets du jour en focus, la première réaction de Roxana Amara Sineanu, la ministre des Sports, après ces incidents hier soir à Nice, des supporters qui entonnent un chant insultant la mémoire d'Emiliano Sala, l'ancien joueur du FC Nantes, la ministre des Sports et l'invité de RTL Midi. Et puis à 12h50, retour sur le combat d'une famille, celle de Marie-Thérèse Bonfanti, dont la disparition vient d'être résolue 36 ans après les faits.
Notre question du jour sur RTL.fr, chant à Nice sur la mort d'Emiliano Sala. Faut-il interdire de stade à vie ses supporters ultra? On posera bien sûr la question à la ministre dans quelques instants, mais vous, vous dites oui à 86%. Notre météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour Amandine.
Et ça se gâte cet après-midi.
Et oui, avec des averses orageuses déjà en ce moment entre l'Aquitaine et le Massif central, et elles vont glisser vers la Franche-Comté et l'Alsace. De part et d'autre, un ciel plus ou moins voilé. Plus on va se rapprocher de la Méditerranée et de la Manche, plus les éclaircies seront belles, et puis toujours un petit risque d'averse sur les reliefs. Les températures en baisse mais encore douces, de 16 à 19 près de la Manche, jusqu'à 23 au nord de la Loire et de 23 à 27 ailleurs.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc ce mystère enfin résolu, RTL vous le révélait ce matin, la fin d'un cold case vieux de 36 ans. Un homme de 56 ans a été mis en examen et écroué pour le meurtre et l'enlèvement de Marie-Thérèse Bonfanti, une mère de famille disparue en 1986 tout près de Grenoble. Un immense soulagement bien sûr pour toute sa famille, à commencer par son mari Thierry.
Moi j'ai été en prison 36 ans, je sors de prison, maintenant à lui d'y rentrer. C'est quelqu'un d'apparemment très complexe, qui a réussi à déjouer tous les plans jusqu'à aujourd'hui, 36 ans après. Donc vous imaginez que c'est quelqu'un qui a du caractère. C'est de la joie malgré tout, parce que personnellement, j'y croyais plus. On n'a jamais lâché, effectivement. Toute la famille n'a jamais lâché. Et ça c'est important.
Un document RTL signé Serge Puyot. On reviendra, hein, bien sûr, sur les dessous de ce cold case avec Serge. Ce sera à 12h50.
La politique est à un mois pile du premier tour des législatives. Éric Zemmour sera candidat.
Ah oui, il le confirme ce matin. Bonjour Thomas Després. Le président de Reconquête a choisi la 4e circonscription du Var, celle de Saint-Tropez.
Exactement, une décision qui n'a pas été facile à prendre, nous dit-on il y a quelques jours encore. Un des ténors de Reconquête nous confiait que le choix n'avait pas été arrêté. Éric Zemmour a donc jeté son dévolu sur l'une des circonscriptions qui lui a offert l'un de ses meilleurs scores au niveau national, 15% contre 7% sur l'ensemble du pays. Alors oui, 15% ça reste très peu pour imaginer devenir député en juin prochain, mais cela permettra d'offrir l'image d'un chef de parti dans l'arène, analyse un proche, même si les chances de victoire sont aujourd'hui très faibles.
Thomas Després du service politique de RTL. Côté gouvernement, Jean Castex, lui, joue les prolongations, William Galibert.
Oui, il enchaîne les pots de départ dans les jardins de Matignon, mais il pourrait rester quelques jours de plus. Il devait démissionner vendredi ou samedi, mais Jean Castex s'est annoncé dimanche au Vatican pour représenter la France lors de la canonisation de Charles de Foucault. C'est une information du journal La Croix que plusieurs sources confirment à RTL, mais que Matignon ne valide pas encore officiellement. Est-ce qu'il sera à Rome en tant que Premier ministre ou en tant qu'ancien Premier ministre? Là est la question. Et donc, s'il démissionne plus tard que prévu, forcément, son successeur et le nouveau gouvernement seront connus plus tard que prévu. Et vous comprenez pourquoi, en ce moment, on vous répète qu'il faut rester très, très prudent sur le calendrier d'Emmanuel Macron.
Merci à vous, William. Le Premier ministre qui sera cet après-midi dans le Vaucluse, ça c'est une certitude. Déplacement consacré à la sécheresse qui inquiète bien des agriculteurs. Tout se joue ces jours-ci, en ce moment même. Illustration en Meurthe-et-Moselle, entre Essaye et Mézeray. Avec vous, Samuel Goldschmidt.
Oui, c'est ce que l'on constate en grattant la terre dans cette parcelle de tournesol. Il est tout petit, trois feuilles, plutôt beau, mais...
Depuis trois semaines, il n'y a pas plu. Donc là, on commence à arriver sur des seuils, on va dire, critiques. Tout n'est pas perdu, hein, loin de là. Hein. Mais le système racinaire est en train de se développer. Et pour se développer, eh ben, il lui faut de l'eau.
De l'eau absente, même s'il y a des nuages en ce moment. Et du coup, Laurent Rouillère s'adapte vite.
On travaille avec du vivant, avec de la météo. Il faut aussi qu'on évolue. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Un, on essaie d'économiser. Deux, on essaie de stocker au maximum maximum avec des infrastructures sur l'exploitation et en pâture. Donc ça, c'est plus sur la partie élevage. Et sur la partie céréalière, on essaye d'introduire de nouvelles cultures, des cultures qu'on ne voyait plus. Sorgho pour l'alimentation du bétail et tournesol réapparaissent dans nos territoires.
Et d'ailleurs, sur la ferme, en plus de récupérer l'eau de pluie des toits, Laurent Rouillère a réalisé un forage à 35 mètres de profondeur pour sécuriser l'approvisionnement.
En Meurthe-et-Moselle, le reportage pour RTL de Samuel Goldschmidt.
Dans l'actualité également, cette confrontation très attendue dans l'affaire Jubilard.
Face à face entre Cédric Jubilard et l'un de ses anciens co-détenus, un certain Marco, à qui il aurait confié avoir tué son épouse Delphine. Le rendez-vous est fixé à 14h et déjà une nouvelle passe d'armes entre avocats. Écoutez, Maître Martin, l'avocat de Cédric Jubilard, l'un de ses avocats, vous entendrez ensuite Maître Batic, qui lui défend la famille de Delphine Jubilard.
Nombre d'autres détenus ont été entendus sur le comportement de Cédric Jubilard. Il y en a un qui dit, on lui a posé plus de questions que les policiers, il a toujours dit qu'il était innocent, il y en a plusieurs qui le disent. Tout ça, ça ne tient pas, c'est connu dans toutes les affaires criminelles d'importance, on appelle ça un mouton. On a placé cet homme à côté de la cellule de Cédric pour essayer de le faire parler, en tout cas pour le manipuler.
Nous ne sommes pas dans une série policière américaine. Il n'y a pas eu d'arrangement, il n'y a pas eu de manigance. Cédric Jubilard a tout simplement fait des aveux à ce co-détenu. Est-ce qu'il répétera, est-ce qu'il réitérera ce qu'il a dit à plusieurs reprises, être le criminel parfait, avoir commis le crime parfait, avoir caché le corps de Delphine qu'on ne retrouvera jamais, l'avoir tué car il ne supportait pas être l'homme le plus cocu du Tarn. Et s'il répète ce qu'il a dit à plusieurs reprises à ce co-détenu, eh bien on peut en attendre quelque chose.
Des propos recueilli pour RTL par Thomas Proutot et Patrick Tégéraud. L'Ukraine, elle annonce un premier procès pour crime de guerre, le premier depuis l'invasion russe. Bonjour Émilie Bojard.
Bonjour.
Aucune date n'a encore été fixée. L'accusé est un soldat russe de 21 ans.
Et oui, le jeune homme est accusé d'avoir tué un civil qui circulait à vélo dans un village entre Kiev et Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. Les faits remontent en fait à fin février. Vadim, le soldat, se déplace alors avec 4 autres militaires russes. Leur convoi vient d'être attaqué. Ils volent alors une voiture pour sortir de la zone. En partant, Vadim fait feu sur un homme de 62 ans pour qu'il ne puisse pas les dénoncer. L'homme meurt sur le coup à quelques mètres de chez lui. On ne sait pas comment Vadim a été arrêté, ni où sont passés les 4 autres soldats présents avec lui. Ce qui est sûr, c'est que le jeune soldat est emprisonné en Ukraine et qu'il sera jugé prochainement pour crime de guerre. Il risque la prison à vie.
Émilie Bojard du service étranger de RTL.
En Corée du Nord, Kim Jong-un ordonne le confinement de tout le pays.
Et ce, après la découverte d'un cas de Covid. Un seul cas, le premier, officiellement en tout cas, oui, depuis le début de la pandémie. Ici en France, vous le savez, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun à partir de lundi. Pourtant, l'épidémie est encore bien là. Le Covid fait encore un mort toutes les 15 minutes dans notre pays. Un chaque quart d'heure, Odile Bouget.
Oui, cela fait une moyenne de 100 décès par jour. Chiffre identique d'ailleurs pour les entrées en réanimation. Ce nombre de morts est stable depuis la mi-mars, à un niveau relativement haut, même si évidemment rien de comparable avec le début de la crise sanitaire, lorsque 500 patients mouraient chaque jour. Ceux qui sont admis en soins critiques sont en très grande majorité des gens fragiles, éloignés de leur dernière injection ou pas du tout vaccinés, atteints souvent par d'autres pathologies ou aussi système immunitaire défaillant, d'où la recommandation du ministre de la Santé de continuer à porter le masque dans les transports en commun, même si ce n'est pas obligatoire, milieu clos et confiné par excellence, pour se protéger et protéger les autres. L'épidémie, en effet, n'est pas terminée. On enregistre encore chaque jour, en moyenne, un peu moins de 40 000 contaminations.
Odile Pouget, spécialiste santé à RTL. On va marquer une petite pause, Pascal. Dans un instant, le gros coup de gueule de Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice, après les chants entonnés hier soir par certains supporters.
On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben croyez-moi, on est dans la merde.
Faut-il sanctionner ces ultras? Comment enrayer la violence dans les stades? La ministre des Sports, Mme Mara Sinéanou, est avec nous. Elle est l'invitée de RTL Midi dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
J'ai pas d'adjectif pour définir ce que j'ai entendu. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben croyez-moi, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Ce que j'ai entendu, c'est inadmissible et je ne vois pas ce que vient de faire la mémoire de quelqu'un qui est décédé dans un accident tragique. Pour moi, c'est surréaliste. J'ai pas de mots, qu'ils restent chez eux. On peut pas entendre ça dans un stade. Si c'est pour insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là.
C'était hier soir à l'issue du match contre Saint-Étienne, trois jours après la défaite contre Nantes en Coupe de France, le coup de gueule de Christophe Galtier, l'entraîneur niçois, contre cette centaine de supporters qui ont entonné ce chant insultant la mémoire d'Emiliano Sala, l'attaquant nantais décédé dans un accident d'avion en 2019 au-dessus de la Manche. C'est un Argentin qui nage pas bien, Emiliano sous l'eau, parodie honteuse du chant que les supporters nantais ont désormais l'habitude d'entonner à la 9e minute de chaque match pour saluer la mémoire de leur idole. Antoine Camboire, l'entraîneur du FC Nantes, s'est immédiatement dit scandalisé.
La connerie humaine n'a pas de limite, quoi. Je suis scandalisé. Ces mecs-là, ils n'ont rien à foutre dans un stade, quoi. On aurait ça comme supporters, il faudrait les bannir. C'est des gens qui ne doivent plus avoir leur place dans un stade. C'est honteux. Je savais que parfois les supporters pouvaient être violents, pouvaient être cons, mais là, c'est vraiment des ânes, quoi. Il n'y a pas de mots pour décrire la connerie de ces gens, quoi.
Alors justement, que faire? Faut-il sanctionner ces supporters, les priver de stade? C'est le premier débat de RTL Midi. Bonjour Roxana Maracineanu.
Bonjour.
Vous êtes la ministre des Sports. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL. Vous dites quoi ce midi? Ces supporters doivent être exclus, bannis des stades?
Je suis tout à fait en accord avec les propos de Christophe Galtier qui dit que ce sont des chants inqualifiables, indécents. Je pense évidemment en premier lieu à la famille de M. Sala parce que c'est un monsieur, c'est devenu un symbole du football français. Vu les conditions de son décès, vu aussi sa personnalité, comme il l'a souligné l'entraîneur de Nice hier. Et voilà, moi je suis contente qu'il y ait eu ces réactions, que le club ait lui-même réagi, que l'entraîneur ait réagi. C'est bien, mais je crois qu'on ne doit pas en rester là.
Madame la ministre, je regardais le nombre d'incidents dans le football cette année, parce qu'en rugby, il n'y a pas ces problèmes-là. Notamment à Nice, dans cette tribune où précisément a été partie la bouteille qui avait ciblé Dimitri Payet, avec des sanctions qui avaient été limitées. Et c'est le sens de ma question. Bien sûr, ça ne dépend pas de vous, mais est-ce que vous diriez que les sanctions, notamment de la Ligue nationale, sont trop faibles contre les ultras et contre les clubs?
Le président de l'OGC Nice, monsieur Jean-Pierre Rivière, et c'est pareil pour monsieur Vincent Labrune, ils étaient avec nous, avec monsieur Darmanin, moi-même, Éric Dupond-Moretti à Beauvau, lorsque nous avons fait cette réunion pour parler justement de ces violences dans les stades qui, suite au retour des supporters dans les enceintes sportives, n'ont pas cessé finalement de s'empirer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous sous la sidération d'en arriver là.
Mais vous ne répondez pas vraiment à ma question. Est-ce que vous diriez qu'il y a de l'indulgence?
Comment les supporters étaient en train d'écrire les paroles de cette chanson?
Mais j'entends bien, mais vous ne répondez pas vraiment à ma question. Moi, je vais vous dire mon avis personnel pour connaître un peu le football. Je trouve qu'il y a beaucoup d'indulgence de la Ligue nationale. Je trouve qu'il y a beaucoup d'indulgence et de complaisance des clubs avec leurs ultras. Est-ce que vous partagez cet avis?
Nous avons discuté à Beauvau de tous ces aspects. Donc maintenant, comme je le disais, ça ne doit pas en rester là. Monsieur Rivière sait qu'il y a entre ses mains un attirail de sanctions qu'il a à sa disposition. On leur a rappelé à ce moment-là ce qu'il pouvait faire en termes de sanctions commerciales pour interdire l'entrée au stade lui-même de ses supporters. Si on peut les appeler des supporters, pour moi ce n'en sont pas. Le club peut se constituer partie civile et on laissera le soin au juge de qualifier les faits. S'il était saisi par le club, et évidemment, oui, la Ligue, et j'en suis sûre, prendra ce sujet comme les autres sujets qu'ils ont pris.
Mais madame la ministre, on a l'impression...
Il y aura des sanctions. Mais ça ne suffira pas, parce que vous savez, punir le club de Nice, lui retirer des points... peut-être, oui, parce que c'est à lui aussi de prendre ses responsabilités.
Mais il n'y a que ça qui marchera. Le jour où vous enlèverez 10 points à un club de football... dont les supporters agissent comme ça, ça changera.
D'autant qu'on a l'impression que ça n'arrive pas dans les autres sports. C'est-à-dire que ça arriverait dans un autre sport, la même chose arriverait à des chants comme ça. Il y aurait peut-être plus de sanctions, dans un stade de rugby, par exemple. C'est pas votre sentiment, ça, madame ?
Moi, je crois beaucoup à, vous savez, l'impulsion que les têtes des instances, ceux qui sont à la tête des instances, peuvent donner. Que ce soit le président de la Fédération de football, que ce soit le président de la Ligue de football, ils doivent clairement se positionner sur ces questions, publiquement, comme je l'ai fait, moi, depuis des années, depuis que je suis ministre des Sports, sur les chants homophobes, C'était une nouveauté à l'époque. Maintenant, voilà, tout le monde s'en saisit. Aujourd'hui, on atteint effectivement des sommets. Je vois là dans la bêtise et l'indécence. Donc, il faut effectivement qu'il y ait des prises de position claires de la part de ces personnes.
Mais et par exemple,
les commissions qui agissent, qui actent. Et puis les clubs qui agissent à leur niveau de responsabilité.
Oui, mais depuis des années, les clubs...
qu'on a cherché à remettre en route lors de cette réunion. Nous étions tous autour de la table où chacun s'est engagé à...
Il y a eu 50 réunions depuis 20 ans et j'ai été dans le foot longtemps et c'est toujours les mêmes...
Non, il n'y en a pas eu au ministère de l'Intérieur. Il n'y en a pas eu beaucoup depuis 50 ans.
En tout cas, par exemple, celui qui a entonné cela, qui a donné le « là » hier, c'est ce qu'on appelle un capot. Le mot, d'ailleurs, m'a toujours paru surprenant. C-A-P-O. C'est lui qui fait chanter tous les supporters. Ce capot-là, on sait son nom. On sait qui c'est, mais cette personne ne doit plus venir dans un stade pendant 10 ans.
Moi, j'ai poussé
les sanctions individuelles. Est-ce que vous allez porter plainte ?
Ce n'est pas à moi de porter plainte, c'est au club de porter plainte contre cette personne, peut-être contre d'autres personnes. On s'est tous mis d'accord sur le fait que c'était des sanctions individuelles qu'il fallait porter. Nous avons fait notre travail au sein du gouvernement en votant même des sanctions individuelles, par exemple contre l'introduction des fumigènes dans les stades, avec des amendes forfaitaires. Et le fait de pouvoir repérer les personnes.
Mais les amendes, ça sert à rien, Madame la Ministre.
Ah, mais si rien sert
un fumigène
rien,
dans un stade, 10 points, un fumigène, dans un stade, 10 points de moins pour le club. Croyez-moi, il n'y en aura plus un. Ça ne sert à rien, l'amende forfaitaire. C'est comme si vous ne faisiez rien. C'est ça qui est terrible, c'est ce sentiment d'impunité. Vous voulez la...
Vous êtes les premiers à dire qu'il faut des sanctions individuelles et des sanctions collectives.
Je vous répète, les supporters font,
il y a des...
les supporters grillent un fumigène dans un stade, 10 points de moins pour le club. Croyez-moi, il n'y en aura plus un.
Déjà, ce qui serait super, c'est que lorsque on entend des chants comme ça, comme je l'ai dit pour les propos homophobes, eh bien qu'on puisse arrêter les matchs et que les arbitres aient l'autorisation du président de la Fédération de football de pouvoir arrêter les matchs lorsqu'on entend clairement, aussi clairement que M. Galtier l'a entendu, eh bien, des chants de cette manière-là. Alors maintenant, il faut regarder, est-ce qu'on entend ce qu'ils disent, est-ce qu'on s'en rend compte au moment où ça se passe, et à ce moment-là, déjà arrêter les matchs pour que ces personnes, ces supporters, ils n'aient plus de spectacle à regarder et qu'ils rentrent chez eux, effectivement, et que ils réfléchissent peut-être à deux fois au moment où ils vont écrire les paroles de leur chant. Déjà, parce que là...
Madame la ministre, restez avec nous. On va rejoindre Mickaël Lefebvre, qui est le correspondant d'RTL à Nice. Bonjour Mickaël, vous avez rencontré matin d'autres supporters niçois, ceux qui n'ont pas chanté. Quel est leur sentiment ? Ils ont honte ?
Évidemment, c'est la honte qui est d'ailleurs le mot qui revient le plus souvent parmi les supporters que j'ai pu rencontrer depuis ce matin et dont certains étaient d'ailleurs au stade hier soir.
Ah ouais, ce matin j'ai honte, c'est pas du football ça. Bon, moi ça m'a un peu écœuré, franchement, ça n'a rien à foutre ça sur un terrain de football. Je suis allé au stade et tout, j'ai pas compris pourquoi il y a eu ce chant au sujet de ça là.
C'est pas une belle image quoi, ils sont pas tous comme ça et ça montre vraiment une mauvaise image de Nice. Là, ça commence à faire beaucoup ouais. Et puis le problème c'est qu'après ils punissent tout le stade, on peut plus aller voir nos matchs, on profite plus quoi. C'est vraiment dommage.
Faut s'attaquer aux responsables. Ce qu'ils ont fait, ça se dit pas, c'est scandaleux. Mais faut pas non plus tout mettre sur le dos de tout le monde.
Ouais, voilà, ne pas faire d'amalgame, mais trouver et punir les responsables. C'est le sentiment partagé ici par les supporters des Aiglons. Ça ne devrait d'ailleurs pas être compliqué, car contrairement au lanceur de bouteilles d'eau sur Dimitri Payet le 20 août dernier, cette fois, les fautifs sont parfaitement identifiables grâce en particulier aux caméras de vidéosurveillance du stade.
Merci à vous, Mickaël Lefebvre, en direct de Nice. Roxana Maracine, et à nous cette question de ce sentiment d'impunité qu'évoquait Pascal il y a un instant, c'est quand même là tout le problème, non ?
Mais ça ne doit pas exister.
Comme
je l'ai dit tout à l'heure, il y a des sanctions individuelles qui peuvent être prises par le club, par la Ligue également, par les préfets s'il faut, et il faut qu'elles soient prises, effectivement. Si on sait qui a entonné ces chants et qui les a écrits, il y a des sanctions commerciales que le club lui-même peut prendre. Donc aujourd'hui, s'il y a eu cette prise de position claire que je félicite et que je salue de la part du club en question, il faut aller au bout de ses responsabilités.
Merci beaucoup Madame Maracine à nous, et comme vous êtes ministre des Sports, évidemment, on ne peut pas vous laisser partir sans vous poser la question si vous serez toujours ministre des Sports dans quelques jours.
Merci à vous, monsieur Pro. Au revoir.
Ah non, mais
on
vous le souhaitait, bien évidemment. On vous le souhaitait de continuer cette action. J'imagine que vous aimeriez continuer votre action. Madame Marès Ideanou ne veut pas répondre. Secret. Il est 12h52. La pause, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la crise.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
C'est de la joie malgré tout, parce que personnellement, j'y croyais plus. On n'a jamais lâché, effectivement. Toute la famille n'a jamais lâché. Et ça, c'est important.
Thierry est le mari de Marie-Thérèse Bonfanti. En 1986, cette jeune femme, qui a alors 25 ans et qui est jeune maman de deux enfants de 4 et 6 mois, disparaissait mystérieusement alors qu'elle distribuait des journaux en Isère. L'un des suspects de l'époque avait été relâché. Eh bien, il a été arrêté et mis en examen cette semaine. RTL vous le révélait ce matin. Il a tout avoué. Le dossier avait à l'époque été classé par la justice. Mais la famille s'est battue et elle a mené sa propre enquête. Bonjour Serge Puyot.
Bonjour.
C'est vous qui nous révélez cette affaire pour RTL. C'est vraiment le combat d'une vie qui trouve une issue aujourd'hui.
Oui, vous l'avez dit, cette famille n'a jamais lâché. Lorsque la justice a décidé de refermer le dossier fin 87... Même pas deux ans après la disparition de Marie-Thérèse, son mari, ses parents, ses sœurs, son frère se sont battus pour que la jeune femme ne tombe pas dans les oubliettes. Ils ont alerté les médias, expliqué qu'il y avait un suspect sérieux, qu'il fallait que les gendarmes continuent à travailler, à creuser cette piste. En 2020, le frère de Marie-Thérèse a remis au procureur de Grenoble, Éric Vaillant, un mémoire pour expliquer qu'Yves Chatin, le suspect, avait le profil du meurtrier, qu'il avait des antécédents de violence par rapport à des femmes et ce long travail de 36 ans de relecture du dossier a payé.
Serge, vous avez passé la matinée avec le mari de Marie-Thérèse Bonfanti et ses enfants qui étaient tout petits à l'époque, hein, je le disais, 4 et 6 ans. Quel était leur état d'esprit très ému, on imagine ?
Oui, c'est une famille soudée hein, que j'ai rencontrée ce matin dans le bureau de leur avocat, Maître Bernard Boulou, une famille soulagée aussi de constater que leur combat avait enfin payé. Une famille qui s'est remémorée ce terrible 22 mai 1986, le jour où Marie-Thérèse a disparu. C'est le cas de Erika, la fille de Marie-Thérèse Bonfanti. Elle était toute petite quand sa maman a disparu.
Ben oui, j'avais 4 ans et demi. En fait, c'est un monde qui s'écroule, quoi. On comprend que maman, elle rentre pas tout de suite, qu'on la cherche, qu'il y a quelque chose de grave, mais... À 4 ans et demi, en fait, on comprend quand même assez vite, on grandit vite du coup. Oui, c'était pas facile.
36 ans après, on sait enfin le nom avec certitude du meurtrier présumé de votre mère. Mmh. Qu'est-ce que ça vous fait ?
La grosse nouvelle, c'est qu'il est enfin avoué, c'est sûr. C'est son calvaire à lui. Et franchement, qu'il vive avec ça jusqu'au bout, c'est son problème. C'est pas humain. Donc... Pour moi, c'est... Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire au bout de 36 ans de dire ça. Est-ce qu'il a voulu se soulager de quoi que ce soit ? Peut-être, mais c'est son problème.
Vous étiez déjà persuadée de la culpabilité d'Yves Chatin ?
Alors, moi, longtemps, j'entendais ce que la famille disait. C'est sûr que leur ressenti, c'était ça. Une faute de preuve, on ne pouvait pas aller plus loin, donc... Vers 30 ans, j'ai repris tout le dossier, j'ai relu et effectivement, j'ai adhéré au même ressenti que la famille.
Qu'est-ce que vous attendez maintenant ? Qu'on retrouve d'abord le corps de votre maman ?
Oui, oui. Parce que, j'aimerais qu'elle revienne. Qu'elle soit avec nous, quoi. C'est mieux que de la savoir quelque part, dans la nature... Enfin voilà quoi, c'est les animaux qu'on laisse comme ça.
Témoignage bouleversant des enfants de Marie-Thérèse Bonfanti. Serge Puyot, on sait que le suspect a avoué, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'éléments matériels et s'il n'avait pas avoué, il ne serait pas aujourd'hui sous les barreaux ?
On ne sait pas tous les détails du dossier, de savoir effectivement ce qui a permis aux gendarme lors de la garde à vue de le faire avouer. Mais effectivement, c'est vrai que cet homme a craqué d'un coup, nous a-t-on dit, lors de cette garde à vue. Il a peut-être voulu soulager sa conscience. On ne sait pas exactement comment les choses se sont passées, mais sans le travail de cette famille, sans la pression mise par cette famille sur la justice et les gendarmes, eh bien peut-être que Yves Chatin n'aurait jamais avoué les faits.
Est-ce qu'il est suspecté d'autres disparitions dans la région ?
Alors oui, il y a eu d'autres disparitions dans le secteur de Pontcharrat dans les années 80. En 1985, Marie-Ange Bidou, 19 ans, s'est volatilisée alors qu'elle faisait du stop. Deux autres autostoppeuses belges ont disparu à une vingtaine de kilomètres de Pontcharrat. Et puis en 1981, il y a eu cette secrétaire, Liliane Chevènement, 41 ans, qui a été retrouvée étranglée. Elle était passée à proximité de la maison d'Yves Chatin. Les enquêteurs vont donc reprendre tous ces dossiers un par un afin de savoir si l'homme est potentiellement un tueur en série.
Et c'était il y a 36 ans et on a peu d'informations sur ce qu'a fait cet homme pendant 36 ans, Serge Puyot.
Peu d'informations pour l'instant, on en aura sans doute dans les prochains jours, les prochaines heures. Mais effectivement, c'est un homme qui apparemment a mené une existence tranquille avant d'être interpellé par les gendarmes en début de semaine.
Il est quasiment 13h, la pause, et nous revenons avec les auditeurs.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.